Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, L'homme devant la mort, de Philippe Ariès. Philippe Ariès étudie le sentiment de la population face à la mort à travers l'histoire, y voyant un pilier de la construction de la société. L'historien montre comment la mort est passée du lieu commun au tabou entre le Moyen-Âge et la période contemporaine. Il distingue, dans L'homme devant la mort, deux types de rapports de l'homme avec la mort, la mort apprivoisée et la mort sauvage. Pour traiter son sujet, Philippe Ariès a constitué un corpus documentaire varié, sources littéraires, liturgiques, testamentaires, épigraphiques et surtout iconographiques, et balayé la période allant du Moyen-Âge à nos jours. La mort n'est plus un fait culturel qui structure la communauté. Cette relégation de la mort est à mettre en lien avec la médicalisation de la société. La mort est maintenant si effacée de nos mœurs que nous avons peine à l'imaginer et à la comprendre. L'attitude ancienne, où la mort est à la fois proche, familière et diminuée, insensibilisée, s'oppose trop à la nôtre, où elle fait si grand peur que nous n'osons plus dire son nom. C'est pourquoi, quand nous appelons cette mort familière la mort apprivoisée, nous n'entendons pas, par là, qu'elle a été autrefois sauvage et qu'elle a ensuite été domestiquée. Nous voulons dire au contraire qu'elle est aujourd'hui devenue sauvage, alors qu'elle ne l'était pas auparavant. La mort la plus ancienne était apprivoisée. Philippe Ariès est né à Blois le 21 juillet 1914. La famille Ariès est originaire du village de Saman, en Haute-Garonne, où elle figure dès le 15e siècle. Philippe Ariès a grandi dans une famille catholique et royaliste. Il étudie chez les Jésuites de Saint-Louis de Gonzague, puis au lycée Janson de Sailly, et milite quelque temps au sein des lycéens et collégiens de l'Action française, fréquentant notamment Claude Roy, Raoul Girardet, Robert Brasillac, Pierre Gaxotte, Jacques Laurent ou encore Pierre Boutan. Après deux échecs successifs à l'oral de l'agrégation d'histoire, il entre à l'Institut des fruits et agrumes coloniaux en 1943. Chef du service de documentation, il s'occupe d'importation de fruits tropicaux, poste qu'il quitte en 1979. Dès 1948, dans l'anonymat le plus complet, il publie sa première étude, l'histoire des populations françaises et leur attitude devant la vie depuis le XVIIIe siècle. Son second livre, « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime », en 1960, reçoit un accueil tout aussi discret. Cependant, traduit en anglais, l'ouvrage rencontre un très grand succès aux États-Unis, séduit par cette étude novatrice sur la famille et qui assure à son auteur une audience internationale paradoxale, puisque la France le découvre à peine. Philippe Ariès devra attendre l'âge de 64 ans pour obtenir une reconnaissance de son statut d'historien par le milieu universitaire français, avec son élection en 1978 à l'École des hautes études en sciences sociales en tant que directeur d'études, sans pouvoir enseigner plus d'une année puisqu'il atteignait l'âge de la retraite. Il publie la même année son dernier grand livre, « L'homme devant la mort ». Il s'agit donc d'une histoire de longue durée, comme l'a défini Fernand Braudel. L'histoire des mentalités est initiée par les historiens français Lucien Febvre et Marc Bloch dans le contexte de création de l'École des Annales en 1929, école dominée dans une tradition laïque et républicaine. Philippe Ariès, historien et grand lecteur des Annales, spécialement connu pour ses deux études portant sur la famille et la mort, défend une interprétation psychologique de l'histoire, ce qu'il nomme l'inconscient collectif, le concept de mentalité permet de comprendre plus clairement le passage à la modernité. Créateur d'un champ nouveau appelé à de grands succès, l'histoire des mentalités, Ariès se révèle proche d'un Michel Foucault dont la thèse a été publiée en 1972 chez Gallimard sous le titre « L'histoire de la folie à l'âge classique ». Il décède à Toulouse le 9 février 1984. La proportion des gens de qualité enterrés dans les églises est plus forte à Saint-Étienne. 38% des sépultures totales, elle est encore notable à la Dorade, 20%. Elle est faible à la Dalbade, 9%. Les nobles, les gens de qualité, les riches dans les églises, cela est sûr. Ceux d'entre eux qui, dans leur testament, auraient choisi par piété et simplicité le cimetière et la fosse commune, n'apparaissent pas dans les statistiques sommaires des années toulousaines ici retenues. Nous ne devons pas cependant oublier qu'ils n'ont jamais cessé d'exister du XVe au XVIIIe siècle. Mais la leçon la plus intéressante de ces données concerne la proportion des sépultures des plus petites gens dans les églises. Elles sont en moyenne autour de 10%, ce qui n'est pas négligeable. Nous y trouvons des convoyeurs, pourvoyeurs à la pierre, femmes de travailleurs, soldats du guet, cochers, garçons, boulangers et quelques autres dont le prêtre ne donne pas le métier. La fille d'un cuisinier de la paroisse Saint-Étienne sera enterrée aux Jacobins. Des enfants d'ouvriers saillotiers, de soldats de la Dalbade, sont enterrés au Cordelier. Rappelons ce qui vient d'être dit de l'attachement aux ordres mendiants. Leurs églises comprenaient des chapelles et confréries. C'est probablement grâce à leur affiliation à des confréries que ces petites gens et leurs femmes et enfants ont eu leur sépulture à l'intérieur des églises. Bien entendu, s'ils avaient une sépulture, ils n'avaient pas nécessairement de tombe visible, ni d'épitaphe. Mais la majorité des sépultures dans les églises provenaient de la seconde catégorie, entre 50 et 70%. 51% à Saint-Étienne, 60 ou 68% à la Dorade, 68% à la Dalbade, des marchands, des maîtres de métier, avec leurs femmes et leurs enfants, maîtres tailleurs, tapissiers, peintres vétriers, chaussetiers, cordonniers, boulangers, saillotiers, apothicaires, perruquiers, fourniers, hôtes, maçons, teinturiers, brosseurs, couteliers, charpentiers, chandeliers, tondeurs de draps, sergiers, perronniers. Eux aussi devaient souvent appartenir à des confréries. On s'aperçoit que les cordonniers vont plutôt au Carme, les tailleurs à Saint-Étienne, les marchands au Cordelier. Ainsi, les sépultures dans les églises nous paraissent-elles composées d'à peu près tous les nobles, gens de robe, petits et grands officiers, et pour plus de la moitié, d'une grande partie de la bourgeoisie des métiers. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourouard. À bientôt. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourouard. À bientôt.